بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Tout est louange revient Allah عز وجل qui nous donne la possibilité donc ce soir de reprendre nos programmes concernant Al-Maut, la mort, après une grande interruption pendant plusieurs semaines, différentes situations qui font que, qadar Allah, on ne peut reprendre que ce soir, qu'Allah accepte nos assemblées, nous permet d'en ressortir avec des acquis spirituels. Aham Shay, le plus important, mes chers frères, c'est que le mu'min prenne conscience qu'il y a un rendez-vous avec Allah, Azza wa Jal, que le nafsin da'iqatul maut, verset qu'on retrouve à trois reprises dans le Coran, verset que nous connaissons, que nous mémorisons, que nous entendons. Maintenant, entre le fait que nous prenons conscience de l'existence de la mort et d'un ange qui est dédié à la reprise de l'âme des personnes sur ce dunya et le mode de vie, le comportement que nous adoptons dans les situations de notre vie, quand nous sommes face à une bonne action, lorsque Allah Rabbul Izzah nous expose une porte de bonnes actions et que nous décidons de passer notre chemin et de ne pas l'emprunter parce que nous manquons de motivation. C'est une preuve très claire que notre iman sur la mort n'est pas réel. Pareil, lorsque nous sommes exposés face à une fitna, un péché, et qu'Allah pardonne nos manquements à nous tous, et que nous décidons, nous voyons une porte de fitna qui est ouverte, entre-ouverte, et nous avons d'un côté la crainte d'Allah, l'amour d'Allah, la honte, haya min Allah, la honte de désobéir Allah Azza wa Jal, qui pèse d'un côté, et de l'autre côté, qada ul haja, ittiba'ul hawa wa nafs, le simple fait de suivre son nafs. Et quand on se décide de pousser cette porte de fitna, de l'ouvrir, et d'y entrer et de prendre un plaisir immédiat, c'est que dans le fond, on ne croit pas vraiment à la mort, on ne croit pas vraiment à la tombe, on ne croit pas vraiment au mahshar, à la résurrection. Même si nous savons que ce sont des étapes réelles, mais c'est la différence entre le fait de savoir qu'il y a un concept et le fait d'y croire fermement. D'où l'importance de l'étude de ces ayat, de ces versets du Coran et de l'Ahadith et des récits de pieux prédécesseurs à propos de la mort. L'objectif, c'est peut-être réveiller des cœurs qui sont endormis, peut-être créer l'électrochoc qui nous manque. Vous savez, très souvent, on a vu dans différentes familles des personnes qui étaient parfois un petit peu éloignées de la religion et lorsque, sans porter de jugement, hein, jamais, astaghfirullah. Et lorsqu'il y a un décès, un papa ou une maman, un proche qui meurt, il y a parfois un regain de foi. La personne, c'est comme si que, uniquement à cet instant que la personne réalise que le dunya, la vie n'est pas une finalité. Et que quand on a vu une personne en bonne santé qui était active, ainsi de suite, maintenant, allongé hein, sur une table ou qu'on lui donne le bain mortuaire enveloppé dans un drap blanc et qu'on l'enterre, c'est comme si que uniquement là que nous prenons conscience que cette vie, ben, elle n'est pas une finalité et qu'il y a une étape juste après. Des fois, l'être humain a besoin de ce genre de vision et de rappel. Et de rappel, c'est ce que nous essayons de lire. Je vous citerai juste une anecdote. J'étais, mashallah, jeune étudiant à Madina. Et c'était la période de Hajj. Et il y avait un couple de Mauriciens, un homme âgé et une femme. Ils étaient là-bas et le monsieur avait fait un malaise et il n'y avait pas de traducteur. Donc quelqu'un m'a trouvé dans la Masjid Nabawi, m'a dit « s'il te plaît, viens nous aider, on veut pas traduire ». J'ai dit « bien sûr, avec grand plaisir ». Et l'homme a eu ce qu'on appelle une angine de poitrine. Je pense que l'angine de poitrine, c'est un infarctus, non? Bon, en fait, il est décédé, hein, il est décédé. Et il y avait une scène insoutenable et je me suis dit qu'il ne faut pas regarder parce que, pour pas créer un traumatisme. Mais après, je me dis que non, il faut regarder. C'est le moment de regarder pour que ça crée quelque chose de le cœur. C'était les derniers instants. C'était un couple de personnes âgées, hein, 75, 80. Très souvent, l'île Maurice, c'est, les gens, ils économisent. Et puis, quand ils ont les moyens, alhamdoulilah, ils y vont. C'est pas comme nous, nos hajj 5 étoiles. Et donc, des personnes âgées. Et ce qui était déchirant, 75, 76 ans, ça fait combien d'années mariage? Combien de bonnes années? Ça au moins, Allahu Akbar, 40, 45 ans, Dieu seul le sait. Les derniers mots, les derniers instants, j'ai voulu regarder et jamais, je pense que jusqu'à ma mort, je n'oublierai pas ces instants, cet homme qui était mourant, agonisant. Et puis il est décédé devant moi. Il est décédé. Il disait, madame, fais maf pour tout. C'est quand même choquant. Après une vie passée ensemble, il demande à son épouse de faire maf et la femme en pleurs et tout, des scènes de la vie. Sunnatullah, la sunnat d'Allah, c'est comme ça que ça se passe. Ce sont des situations que nous allons tous un jour soit vivre, soit en être témoin, et que certainement ça a déjà été le cas. Et il n'y a rien de mieux, c'est un peu étrange de le dire, mais c'est quelque chose qui est important pour l'éveil spirituel. Maintenant, on n'est pas obligé de passer par des traumatismes à chaque fois pour comprendre. La lecture des textes, parfois, peut être suffisant. Hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Donc à Montreuil, même les chats sont hyper agités. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Subhanallah. Ils se battent comme des hommes. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تكتنف العبد وتحبسه لولا ذلك لكان يعدو إلى آخر الحديث. حديث lequel le prophète عليه الصلاة والسلام dit que lorsque la personne est en train de mourir, les anges تكتنفوا, c'est un mot compliqué, أي أحاطه, les anges entourent. Inna al-malaika taktanifu. Les anges se tiennent autour de la personne qui est en train de mourir et wa tahbisuhu, et le retiennent. Là où la dalik, si les anges ne le faisaient pas, la personne trouverait la force pour se lever et courir, tellement la douleur que l'être humain ressent lorsque son ruh se détache de son corps, c'est une douleur qui est inexplicable. Là, on passe au-delà de la limite de ce que l'être humain peut supporter. Vous savez, l'échelle de la douleur a des limites pour l'être humain, d'accord ? C'est un peu de l'autre qui a raconté ça à un ami une fois, un ami qui avait un problème d'ongle incarné. Ça fait très mal, ça, hein ? Et c'est des petites épreuves de la vie. Il dit que voilà, il est en train de nettoyer, creuser, il dit que si je vais plus loin, tu t'évanouis. Et c'était un balèze, hein ? Et il dit qu'effectivement, c'est une douleur qui est tellement persistante qu'elle dit, si je continue à creuser, tu vas t'évanouir sur mon fauteuil. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres pour qu'on comprenne qu'à un niveau, un seuil de douleur, l'être humain perd connaissance. D'accord ? Mais, عند الموت, au moment de mourir, cette loi naturelle, biologique, elle disparaît. C'est-à-dire que la douleur que la personne ressent, c'est quelque chose qui n'est pas descriptible. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de termes, il n'y a pas de témoignage, parce que personne n'en est revenu pour dire c'était très chaud, c'était sérieux. C'est quelque chose qui est exceptionnel. On le vivra une seule fois, et comme on a vu dans un des programmes, le dernier programme qu'on a fait, c'était en ligne, on a vu que la souffrance du croyant au moment de mourir est un asbab qu'Allah a choisi parmi tous les asbabs, les intermédiaires pour l'expiation des fautes. Encore une fois, Allah Rabbul Izzah cherche, et Allah nous propose des situations qui nous permettent de voir nos péchés effacés, et le sakaratul maut, la souffrance, la douleur au moment de mourir, est une situation qui est créée par Allah pour que le croyant voit le restant de ses péchés effacés. هذا. Deuxième hadith, marfou'an, si لو أن, قطرة, comment on va traduire ça, une goutte, c'est une partie. La métaphore en arabe, c'est une goutte de la douleur de la mort. Mais on va dire, si une partie infime de ce que le défunt ressent au moment de mourir, si c'était répandu, si c'est une infime partie de la douleur que ressent l'être humain au moment de mourir, si cette douleur était répandue sur les cieux et la terre, chaque créature aurait ressenti, sans exception, une partie de cette douleur. Ce sont des métaphores, ce n'est pas un hadith, hein, ce n'est pas un hadith, c'est marfouan, mais il faut bien vérifier la chaîne de narration. C'est plein de textes qui vont dans le même sens, qui expliquent, qui relatent la difficulté et le alam, la douleur que ressent la personne au moment de mourir. On continue. Bon, il y a plein de textes, mais je crains qu'on se répète là, parce qu'on a Ibn Abi Dunya qui est le grand spécialiste de tout ce qui est en rapport avec la mort. Donc là, c'est une situation qu'il exploite. Il dit que « لو أن الميت نشر فأخبر أهل الدنيا بألم الموت من تفعوا بعيش ولا بنوم. Ça c'est une parole qui est magnifique. Il dit que si, imaginez qu'une personne qui est décédée et qui a donc connu sakaratul maut, la douleur de la mort, et qui pouvait revenir, c'est au conditionnel, si la personne pouvait revenir et informer les gens de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a ressenti lorsque son ruh a quitté son corps, plus personne, c'est-à-dire tous ceux qui entendraient ce discours, yani plus personne ne trouverait un quelconque plaisir à la vie. C'est comme si que, des fois, nous-mêmes, on a une mauvaise nouvelle, d'accord ? Ça peut être la santé ou le commerce ou la famille ou autre chose, mais il y a des fois où quand on est choqué par une nouvelle, c'est comme si que, voilà, on n'a plus envie de manger, de boire, il n'y a plus rien qui nous intéresse. On dit d'aller, on va entre camarades, un restaurant, manger une glace. Voilà, rien du tout parce que la nouvelle est choquante. Ben maintenant, imaginez que si les vivants, les personnes de ce dunya savaient, si on savait réellement. Mais ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre. Parce que là, on n'est plus dans le même monde. Quand on dit c'est un monde parallèle. Et justement, Allah a décrété que ces deux mondes ne se rejoignent pas, ils ne communiquent pas. Ils ne communiquent pas parce que la foi du mu'min ne doit en aucun cas se baser sur des choses qu'il voit, qu'il entend et qu'il constate. Parfois, il peut y avoir des signes, inna fi khalqis samawati wal ard, tous les versets qui vont, qui parlent des signes de la création d'Allah, mais ça, on va dire, ça reste des choses qu'on voit au quotidien. Mais c'est pas parce qu'on voit ou on voit pas que notre iman existe. Non, non. Le iman augmente en voyant, en contemplant la création d'Allah. Mais la base de iman billah, wal malaik et ainsi de suite, tout ça, ça se trouve dans le cœur. Et donc, il ne doit pas y avoir de témoignage ou autre chose, parce que la foi du mu'min, c'est iman bil ghaib. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Et vous savez, si on reprend ce qu'on a dit en introduction, qu'est-ce qui fait que nous sombrons dans les péchés et que nous ne prenons pas des deux mains les ouvertures qu'Allah nous accorde en termes de bonnes actions? C'est parce que nous ne croyons pas vraiment à la mort, à la tombe et au retour auprès d'Allah. Mais le réel problème, c'est qu'il y a un manquement dans la base de la foi, une qualité du croyant, c'est ce qu'on a dit, « Alladhina yu'minuna bil ghaib ». À partir du moment où on n'a pas pu développer la foi en l'invisible, il est normal qu'on a du mal à croire à l'invisible. Si on ne développe pas « iman bil ghaib », il est normal que toutes les branches qui se rattachent à l'invisible, on a du mal à les intégrer et à en tirer des leçons. Maintenant, qu'est-ce qui nous permettrait ? Qu'est-ce qui nous permet de développer « iman bil ghaib » ? C'est de créer un lien très fort avec notre Seigneur, par le biais des prières de la nuit, quand personne ne te voit et que tu te voues à ton Seigneur à 100%. Un Seigneur que tu ne vois pas, que tu n'entends pas, qui ne te parlera jamais. Jamais Allah ne va te parler. Celui qui dit que Dieu m'a... C'est bon, il faut arrêter. C'est un Seigneur qui ne t'enverra pas de signe direct, mais tu y crois. Et tu te prosternes devant lui. Et que tu consacres 1h30 de ton sommeil et tu consacres, on parle d'une autre bonne action, une partie de ton salaire pour rechercher son contentement, il a, et ainsi de suite. C'est-à-dire, plus on va faire des mujahada, plus on va faire des efforts pour la recherche de l'agrément divin, on prend sur soi. Et moi, c'est le réel moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends sur moi, c'est comme si que je diminue mon yaqin sur le visible, sur les choses qui sont palpables. Vous me suivez ? À chaque fois que je me sacrifie pour mon Seigneur, c'est comme si que je diminue la foi sur le mar'iyat, les choses que je peux voir, et le fait de mettre iman billah, la foi en Allah avant, j'augmente mon capital, si je peux me permettre, mon capital iman, iman bil ghaib. Et à partir du moment où la foi pénètre les cœurs, c'est-à-dire que tu es prêt à consacrer ton temps, à faire passer tes plaisirs après la recherche de l'agrément divin, c'est là qu'Iman bil Ghaib s'installe dans le cœur. Et quand Iman bil Ghaib s'installe dans le cœur, tu as confiance en Allah, tes bonnes actions ont un sens. Le Iyyaka na'budu, certes, c'est uniquement toi que nous adorons, ça prend tout son sens. Parce que quand tu te prosternes, quand tu es en génuflexion, tu penses réellement à Allah et tu ressens la grandeur d'Allah. Il wa Iyyaka nasta'in, mashallah, tu baignes dedans. La confiance totale en Allah Azza wa Jal, elle se trouvera vraiment dans notre cœur à partir du moment, je le répète, où on développe un iman bil ghaib. Et aucune possibilité d'avoir iman bil ghaib sans mujahada, sans effort sur nous-mêmes. Ça ne viendra pas tout seul, ça. Ça ne viendra pas. Ça ne trouvera pas sa place dans notre cœur immédiatement, subitement ou instinctivement. Là, Wallah, c'est le résultat de beaucoup d'efforts et de sacrifices. Sacrifices que les sahaba avaient fait. Ils avaient donné leur temps, leur bien. Parfois même, ils ont donné leur vie pour Allah et ils ont eu ce haut degré de foi. On va clôturer, Inch'Allah. J'avais promis aux responsables de la masjid de ne pas dépasser 20 minutes pour faciliter l'organisation de la fermeture. Je regarde juste mon chronomètre. Non, théoriquement, on a encore 5 minutes. On peut avancer un peu, Inch'Allah. Là, on a plein de textes qui parlent maintenant des terminaisons nerveuses. Vous connaissez quoi une terminaison nerveuse, hein? On en a combien? Beaucoup, hein? Des milliers et des milliers dans le corps. Si vous regardez des schémas, on voit les nerfs, c'est comme une forêt, subhanallah. Donc là, on a des textes, des hadiths, des paroles de pieux prédécesseurs. On va résumer la chose pour ne pas avoir cité plein de textes qui vont dans le même sens. Je choisis celui qui est le plus représentatif. Hadith dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, aada maridan, avait rendu visite à un malade. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Ma minhu irqun illa wa huwa ya'lamu minhu » Il a dit que c'est quelqu'un qui était mourant. Le prophète m'a dit que chaque terminaison nerveuse, mais après ce n'était pas le terme, bien sûr en arabe, c'est chaque partie du corps souffre au moment de mourir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nerf de ton corps qui ne ressent pas la douleur lorsque l'homme est dans le sakarat. C'est-à-dire que c'est le summum en termes de douleur. On va clôturer cette fois-ci par un hadith qui doit faire naître en nous de l'espoir. Dakhal an-nabi alayhi salatu wa salam, pareil, le prophète rend visite à un de ses sahaba qui était malade. Comprenez, maladie de la mort. Les derniers instants, kayfa tajiduka? Il a posé cette question au sahaba, comment est-ce que tu te portes? Quel est ton état d'esprit? C'est ajib ça quand même, hein? Vous voyez quelqu'un qui est de sakarat al-maut, demande-lui quel est ton état d'esprit. À quoi il pense d'après vous? Il pense à ses dettes? Je pense que oui. Il pense à ses salats ratés? Je pense que oui. Il pense aux personnes à qui il a manqué de respect ou ainsi de suite? Je pense que oui. Est-ce qu'il pense à ses investissements ou alors il faut récupérer le loyer de telle personne? Je ne pense pas. Wallahu a'lam. J'ai pas eu l'occasion de converser avec quelqu'un qui allait mourir. Mais je pense que dans ces derniers instants, c'est tout ce qui est dans la foi qui remonte. Et les préoccupations spirituelles, c'est ce qui constitue l'angoisse de la personne qui est dans le sakaratul maut. Le prophète alayhi salam, alors maintenant c'est intéressant de savoir, un sahaba qui meurt, et c'était pas un, na'oud billah, j'allais dire un grand sahaba, c'était pas des sahaba connus, je veux dire, comme Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, ou Moussa ibn Umar, non. D'ailleurs le nom du sahaba n'est pas cité. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam pose cette question au sahaba, kayfa tajiduka, quel est ton l'état d'esprit? Qala ajiduni rahiban wa rahiba. Dit à cet instant au prophète d'Allah, mon cœur est partagé entre l'espoir et la crainte. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit walladhi nafsi biyadi, je jure par celui qui détient mon âme, la yajtami'an ila hadin 'inda hadhihi al-hala illa a'tahu ma raja wa ammanahu mimma yakhaf. Lorsque quelqu'un est dans l'agonie, dans une telle situation de sakaratul maut, et que dans son cœur il y a la crainte et l'espoir, ben Allah Rabbul Izzah lui accordera ce qu'il espérait et le protégera de ce qu'il craignait. Vous voyez la beauté également des paroles. Si ton cœur est entre la crainte et l'espoir, au moment de mourir, sache que Allah va t'accorder ce que tu espères et Allah te protégera contre ce que tu crains. Et ça s'appelle husn al-dhanni billah. Une bonne opinion à propos d'Allah et une opinion du juste milieu, le fait de savoir qu'Allah est clément, miséricordieux, pardonneur, mais en même temps qu'Allah attend de nous un travail, un résultat et qu'Allah peut sévir et punir. Qu'Allah, Rabbul Izzah, nous accorde la possibilité de comprendre ces quelques paroles et que Iman bil Ghaib s'installe dans nos cœurs pour que nos yeux s'ouvrent et que notre relation avec les bonnes actions devienne réelle et que nous arrivions, Inch'Allah, grâce à cette foi, à rester éloignés des péchés. Et nos doigts vont pour toutes les personnes qui nous ont quittés, sachant que le programme concerne les amouates. Qu'Allah, Rabbul Izzah, illumine la tombe de toutes les personnes qui nous ont quittés et que leur tombe soit rawdatun min riyad al-jannah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khayran.